Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue sur la conférence Nexity chiffre d'affaires T1 2022. Pendant la durée de l'appel, vous serez uniquement en écoute, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de la présentation. Cela peut être fait en appuyant sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil pour enregistrer votre question. Je vais donner maintenant la parole à votre hôte, madame Nadia Ben Salem Nicolas, directrice générale adjointe en charge des finances, pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Madame, c'est à vous.
Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous. Nadia Ben Salem Nicolas en ligne, directrice générale adjointe en charge des finances de Nexity. Je suis accompagnée d'Éric Lalécher, directeur financier, ainsi que notre équipe des relations investisseurs. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour la présentation de nos chiffres du premier trimestre 2022. Alors, j'irai en introduction, en slide 3, qu'il y a au fond de grands messages à retenir de la publication d'aujourd'hui. Le premier message, qui est cohérent avec notre communication du 1er avril dernier, est que nous n'observons pas à court terme d'impact significatif du contexte géopolitique global sur notre activité, au vu des chiffres du trimestre qui vient de s'écouler, qui est, vous le savez, peu représentatif de l'année et traditionnellement le moins contributif. Sur le plan commercial, nos réservations de logements neufs sont stables, autour de 3500 lots, exactement en ligne avec le niveau de ces trois dernières années, 2019, 2020, 2021, démontrant la formidable résilience avec laquelle les collaborateurs Nexity ont traversé la crise du Covid et reflétant une demande toujours soutenue de la part de l'ensemble de nos clientèles dans un contexte persistant de sous-offres. Sur le plan financier, nous enregistrons une baisse de chiffre d'affaires de 13%, moins 130 millions d'euros, mais qui était attendue, absolument décorrélée du contexte global actuel, principalement le résultat d'effets de base mécaniques, compte tenu d'une base de comparaison anormalement élevée au T1 l'année dernière en immobilier d'entreprise. Au-delà de ces effets liés à l'immobilier d'entreprise, eh bien, le reste des activités de Nexity se porte bien, notamment nos activités de services, progression à deux chiffres, à plus de 11%, ce qui continue de démontrer la pertinence de notre modèle unique d'opérateur intégré. Alors, le second message est que nous sommes d'ores et déjà en action pour nous adapter au contexte actuel marqué par le retour de l'inflation et la hausse des coûts de construction afin de maintenir les niveaux de marge de nos futures opérations. Nous sommes confiants, grâce à la visibilité offerte par notre backlog, que nous pourrons atteindre les objectifs financiers que nous sommes fixés pour l'année et que nous réitérons. Alors, en slide 4, avant de rentrer dans le détail des éléments financiers, et puisque le financier et l'extra-financier sont de plus en plus intégrés chez les investisseurs aussi, le troisième fait marquant peut-être à retenir de cette publication, c'est l'annonce faite il y a quelques jours de l'accélération de notre stratégie climat pour conforter la place de Nexity comme leader de la décarbonation et de la protection de la biodiversité dans l'immobilier, qui est, vous le savez, en France, l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est un élément très important pour nous dans notre relation avec les collectivités territoriales. Donc, alors que le groupe avait fait certifier l'année dernière par les SBTI, donc cette initiative Science-Based Target, une trajectoire qui visait à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés, eh bien, Nexity se fixe désormais une trajectoire alignée sur un objectif de 1,5 degré, qui sera aussi certifié SBTI. Donc, concrètement, cette ambition nous conduit à doubler les objectifs qu'on s'était précédemment fixés. Et donc, si vous, sur le graphique, c'est avoir une pente de la courbe beaucoup plus prononcée, c'est-à-dire viser de diminuer de 40% d'ici 2030 les émissions de CO2 liées à l'acte de construire dans son ensemble, c'est-à-dire y compris les émissions de scope 3 qui ne seraient pas liées à notre périmètre de responsabilité directe, contre 22% dans nos précédents engagements. Et notamment en développant davantage de bâtiments à performance énergétique élevée, en augmentant la part de la réhabilitation, en recourant davantage aux matériaux et aux modes constructifs bas carbone et ici du réemploi. C'est un objectif qui est très ambitieux, qui est 10% plus ambitieux que la réglementation française de la RE 2020 que vous voyez avec des points verts sur ce graphique et qui est déjà très exigeante dans le contexte européen et qui positionnerait Nexity parmi les premiers promoteurs à avoir une trajectoire certifiée 1,5 degré. Cette feuille de route inclut aussi, comme vous le voyez sur la droite, d'accélérer dans la prise en compte à l'échelle de la biodiversité dans ses opérations. Cette nouvelle stratégie est une étape vraiment très importante pour Nexity, qui a toujours été historiquement engagée pour une ville bas carbone, inclusive, résiliente, et elle sera soumise à l'avis consultatif de nos actionnaires à la prochaine Assemblée générale pour assurer une totale cohérence entre nos discours et nos actes. Alors passons désormais en revue la performance trimestrielle de chacun de nos métiers, en commençant en slide 5 par l'immobilier résidentiel. Alors du côté de la demande, elle est toujours soutenue de la part de l'ensemble de nos clientèles, avec notamment toujours beaucoup d'intérêt de la part des particuliers pour l'investissement immobilier, qui fait jouer à plein son statut de valeur refuge par excellence en période d'inflation et qui bénéficie de conditions de financement toujours attractives, avec des taux d'intérêt qui sont certes en hausse depuis le début de l'année, mais toujours inférieurs au niveau de 2019 et de 2020. Dans un contexte d'offres contenues, et j'y reviendrai dans un instant, nous avons enregistré 3490 réservations de logements neufs, en ligne avec la performance des trois dernières années, alors que nos principaux concurrents ont pu enregistrer des performances, davantage en dents de scie, et restent à des niveaux de réservation inférieurs à ceux de 2019. Donc la résilience de notre activité commerciale sur longue période, c'est vraiment un élément distinctif de Nexity, qui montre notre capacité à délivrer un volume d'affaires significatif, quel que soit l'environnement de marché, et à rester le leader du marché de la promotion dans la durée. Alors le groupe continue de bénéficier d'une répartition équilibrée de sa clientèle, vous le voyez sur le graphique à droite. Les particuliers sont les principaux clients, avec 61% des réservations du trimestre, dont 2/3 d'investisseurs individuels et 1/3 de primo-accédants. Les acteurs institutionnels représentent 39% des réservations, toujours attirés par le caractère défensif et résilient de cette classe d'actifs, dont 31% de bailleurs sociaux, qui sont des partenaires importants dans la stratégie de Nexity, car ils permettent de répondre aux attentes croissantes des collectivités, de gagner de nouvelles opérations et qu'ils sont des détenteurs de ressources foncières. En valeur, les réservations représentent 764 millions d'euros pour le trimestre, en retrait de 3,5% par rapport à 2021, impacté par le mix client puisque les ventes en bloc sont réalisées à un prix inférieur à celui des ventes au détail. Très important de noter, comme c'est indiqué en gras en bas à droite, que les prix de vente moyens au détail sont toujours orientés à la hausse, plus 4,2% en zone tendue, qui représente 80% de nos réservations, ce qui montre bien notre capacité à valoriser au mieux nos produits et à avoir finalement des leviers pour absorber la hausse des coûts de construction. Alors du côté de l'offre, en slide 6, le contexte reste marqué par la difficulté d'obtenir des permis de construire et surtout l'allongement des délais d'instruction, traduisant la réticence à l'idée de la ville dense et l'absence de réflexion collective sur comment habiter le territoire de demain et enrayer la pénurie d'offres. Alors, nonobstant cela, au niveau national, le redressement des délivrances de permis se poursuit, on le voit sur le graphique sur la gauche, avec une progression de plus 6% entre décembre et janvier de cette année par rapport à l'année dernière, même si leur niveau reste toujours inférieur au niveau pré-Covid. Vous voyez environ 5% inférieur à la barre rouge de février 2020. Côté Nexity, fort de notre maillage territorial, de la qualité de nos équipes opérationnelles et de la diversité de nos produits, nous avons obtenu une progression de nos permis de construire supérieure à celle du marché, plus 17% sur la même période, donc contre plus 6% pour le marché, ce qui nous rend confiants dans notre capacité à alimenter notre offre dans les prochains mois et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés de maintenir au moins 14% de part de marché pour l'année. Je vais maintenant passer la parole à Eric pour faire notamment un point sur l'immobilier d'entreprise et les services.
Merci Nadia. L'activité de l'immobilier d'entreprise a été faible au premier trimestre 2022, avec seulement des prises de commandes pour 34 millions d'euros dans une année de bas de cycle pour le marché des VFA en tertiaire. Sur 2022, Nexity anticipe un faible niveau de prises de commandes, un point bas avant un redémarrage de l'activité attendu à partir de 2024. Ce trimestre a surtout été marqué par la livraison d'une opération de rénovation au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement, rue du Colisée. Cette opération illustre les savoir-faire du groupe avec une transformation de garage en immeuble de bureau. Une opération significative car elle illustre la capacité à transformer la ville, répondre aux nouveaux usages, tout en s'inscrivant dans une démarche exemplaire en termes de RSE. Passons aux services. Les activités de services sont très bien orientées en ce début d'année dans le prolongement de la tendance enregistrée en 2021. Dans cette slide, nous mettons principalement l'accent sur nos activités de coworking, un secteur où le dynamisme est le plus important, tant dans l'augmentation du nombre de sites, plus 5 sites, plus 18% de mètres carrés opérés, mais c'est le plus important aussi une progression du taux d'occupation qui retrouve à 90% pour le premier trimestre moyen 2022, le même taux d'occupation que nous avions avant la crise sanitaire du Covid. Les bureaux partagés montrent leur importance, ils sont au cœur de l'évolution des nouveaux usages sur les bureaux flexibles en surface, ils apportent de la flexibilité dans les surfaces et dans la durée des baux pour les utilisateurs. Les activités sont également bien orientées dans l'administration de biens, portées par un bon niveau d'activité de transaction, de location saisonnière. Et de même, dans l'activité de distribution, nous avons une progression du chiffre d'affaires de 10% avec un niveau élevé d'actes notariés qui découle du bon niveau de réservation enregistré en 2021. Si on passe sur le chiffre d'affaires à la slide 9, vous verriez un chiffre d'affaires au T1 2022 qui atteint 895 millions d'euros, qui est porté par le bon niveau d'activité dans le résidentiel et dans les services. C'est un chiffre d'affaires en baisse de 13% par rapport à 2021, 1,28 milliards d'euros, si on est à périmètre constant, c'est-à-dire sur les contributions de Ceinture 21 et Gîtes Domitys qui ont été cédées au deuxième trimestre 2021 et qui avaient représenté une centaine de millions d'euros. Cette baisse elle provient principalement de l'immobilier d'entreprise qui bénéficiait d'un effet de base élevé au premier trimestre 2021 avec la signature d'une grosse commande en Île-de-France. La progression du chiffre d'affaires des activités de service, plus 10%, devrait se poursuivre en 2022. Sur le chiffre d'affaires de l'immobilier d'entreprise, on attend un chiffre d'affaires autour de 400 millions d'euros sur l'exercice compte tenu des rythmes d'avancement des chantiers en l'absence de commandes significatives. Le chantier de l'éco-campus à Les Garennes-Colombes se déroule conformément au planning. Le mobilier résidentiel, le léger tassement du chiffre d'affaires au T1 devrait se poursuivre au deuxième trimestre avant de progressivement augmenter sous l'effet des démarrages des nouvelles opérations au cours du second semestre. Globalement, nous pensons que nous serons au moins au même niveau de chiffre d'affaires en 2022 et cette confiance repose notamment sur la visibilité que nous apporte notre backlog. C'est cet indicateur que va vous commenter maintenant Nadia.
Merci Eric. En effet, le backlog, donc en slide 10, nous finissons le trimestre avec un backlog à un niveau toujours élevé, 6,5 milliards d'euros à fin mars, soit l'équivalent de 2 ans de chiffre d'affaires. Alors peut-être une précision technique, mais je vous rappelle que le backlog reflète le chiffre d'affaires futur du groupe qui est déjà sécurisé, c'est-à-dire les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires qui reste à dégager sur les actes notariés déjà signés, avec des marges qui sont elles-mêmes quasi sécurisées. Sur ces opérations en cours de construction, nous enregistrons une recrudescence modérée, je dirais, de la remise en cause du caractère ferme et non révisable de nos marchés. Beaucoup de demandes sont opportunistes, parfois exagérées. On les examine au cas par cas pour nos 500 chantiers en cours, avec une attention particulière pour les petites entreprises et nos partenaires de long terme, étant entendu que les éventuelles renégociations sont couvertes par nos aléas habituels qui sont inclus dans nos budgets d'opération. Et donc cette mécanique du backlog et cette rigueur de gestion nous rendent absolument confiants sur l'atteinte de notre objectif de résultat opérationnel courant pour l'année. Au-delà, les projets que nous lancerons en commercialisation prochainement et qui feront le chiffre d'affaires au-delà de l'année prochaine, sont intégrés dans un potentiel d'activité, qui est la barre rouge du graphique, qui, vous le voyez, est toujours à un niveau élevé, à 13,5 milliards d'euros, gage de notre capacité à renouveler notre production sur les années futures, quel que soit l'environnement de marché. Alors en slide 11, comme on vient de le dire, on est confiant sur la capacité à concrétiser notre backlog en chiffre d'affaires de demain, avec le taux de marge attendu. Et nos efforts aujourd'hui ils se concentrent principalement sur le renouvellement de l'offre et la réussite des nouveaux projets d'après-demain. Et les enjeux autour de ces nouveaux projets sont essentiellement liés à la contrainte des coûts de construction, dont je vous rappelle qu'ils ne représentent que 50% du coût d'un projet, dont 50% pour les matériaux de construction, donc 25% du coût d'un projet, et 50% pour la main-d'œuvre. Ces coûts sont plus élevés que nos anticipations initiales et intégrés dans nos budgets. Ils conduisent à un allongement de la durée des négociations des marchés de travaux, freinant le renouvellement de l'offre. Pour autant, nous n'avons pas constaté d'augmentation du nombre de projets abandonnés, parce qu'en fait, on est pleinement en action pour nous adapter, comme indiqué dans le titre de cette slide, à ce nouveau contexte global et être en capacité de continuer à lancer des opérations absorbant cette hausse des coûts et respectant nos exigences de rentabilité. Alors, nous le sommes d'abord en action en faisant jouer à plein l'effet de taille du groupe dans sa capacité de négociation, avec une direction de la construction centrale qui est un vrai avantage compétitif par rapport à d'autres concurrents. Elle est pleinement mobilisée pour renforcer notre monitoring des conditions de marché, pour massifier notre politique d'achat, pour renforcer nos partenariats avec nos fournisseurs, qu'on va d'ailleurs mobiliser le 19 mai prochain dans le cadre d'un salon dédié qu'on organise, pour mettre en place de nouveaux contrats cadres, acheter par anticipation quand c'est pertinent, avec deux objectifs, sécuriser les approvisionnements et mieux encadrer l'évolution des prix achetés au meilleur prix. Nous sommes par ailleurs plus que jamais agiles dans la façon de penser nos projets, en revoyant nos procédés constructifs, en revoyant les types de matériaux ou leur origine géographique quand c'est pertinent pour nous orienter vers des solutions plus économiques. Pour prendre un exemple très concret, face aux difficultés par exemple que posent actuellement les tuiles en terre cuite, qui se trouvent directement impactées par la flambée du prix du gaz, eh bien nous les substituons de plus en plus par des tuiles en béton qui sont à la fois plus économiques et d'ailleurs aussi plus vertueuses sur le plan de la RSE car moins émettrices de gaz à effet de serre. Alors en plus de travailler sur notre base de coûts, nous travaillons évidemment aussi sur notre offre en termes de produits, de présence géographique pour qu'elle réponde aux évolutions de la demande et nous mettre ainsi en capacité de flécher au mieux les liquidités disponibles et vendre nos produits au meilleur prix en capitalisant sur une base de clientèle diversifiée. Et puis enfin, je dirais que la hausse des factures énergétiques qui génère une pression forte et donc une sensibilité accrue chez l'ensemble de notre clientèle sur le sujet est une opportunité pour nous de faire la différence et de valoriser dans notre offre la longueur d'avance de Nexity dans le bas carbone, à la fois en promotion, dans l'acte de construire des bâtiments qui sont moins consommateurs en énergie, et aussi en service, dans la gestion et la rénovation énergétique des parcs existants. Donc c'est ce travail, sur lequel d'ailleurs repose le savoir-faire historique de Nexity, qui nous rend vraiment confiants, malgré le contexte inflationniste du moment, dans notre capacité à maintenir dans le temps nos niveaux de marge, comme cette entreprise l'a d'ailleurs toujours fait par le passé à travers les cycles immobiliers qu'elle a traversés, puisque je vous rappelle que Nexity est l'acteur de la promotion avec la marge à la fois la plus élevée et la plus stable et résiliente dans le temps. Alors, sur cette base et fort de ces atouts, slide 12, nous réitérons, comme je le disais en introduction, les objectifs annuels qui ont été communiqués le 23 février dernier, à savoir une part de marché en immobilier résidentiel supérieure à 14% et un résultat opérationnel courant d'au moins 380 millions d'euros. Nous continuerons à suivre évidemment avec attention l'évolution de la situation sanitaire, économique et sociale. Et pour conclure, en slide 13, je vous rappelle que notre prochain rendez-vous avec nos actionnaires, c'est l'Assemblée Générale qui se tiendra le 18 mai prochain en présentiel d'ailleurs, après deux années d'événements à distance. Cette Assemblée Générale nous conduira à revenir sur les résultats de l'année écoulée, durant laquelle nous en avons parlé en février, Nexity a enregistré des performances de très haut niveau, démontré une très forte résilience et conforté sa structure financière, permettant ainsi de proposer le versement d'un dividende en hausse de 25% à 2,50 € par action, de retour à ses niveaux pré-Covid de 2019 et représentant un rendement élevé pour nos actionnaires. Voilà pour ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Et d'ici là, d'ici cette Assemblée générale, eh bien, nous sommes à votre disposition avec Eric pour répondre à vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1. La première question vient de la ligne de Emmanuel Parot de Gilbert Dupont. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Si vous m'entendez bien, j'avais trois petites
questions.
Bonsoir,
Emmanuel.
Bonsoir. La première, c'était sur les réservations. En fait, où j'étais un petit peu étonné, c'est sur les évolutions par clientèle. En fait, c'est surtout tiré par les bailleurs professionnels et ça recule sur les accédants et individuels. J'étais un peu étonné de ça par rapport au fait qu'on pourrait penser que vous auriez pu privilégier les clients peut-être les plus rentables dans ce contexte où il y a un peu une pénurie d'offres. Mais c'est peut-être lié aux opérations embarquées. Donc, je voulais votre éclaircissement là-dessus. Ma deuxième question, c'était oui, sur les coûts de construction. Est-ce que, alors j'ai pas le temps de lire votre communiqué, c'est peut-être dedans, mais est-ce que vous avez donné un chiffre sur l'évolution de ces coûts de construction depuis le début de l'année? Parce qu'on parle d'une deuxième vague inflationniste. Si vous pouviez quantifier ça pour Nexity, ce serait intéressant, et aussi de savoir si vous faites face à des shortages qui impactent en fait l'avancée des chantiers, donc la reconnaissance du chiffre d'affaires. Et enfin, ma troisième question, c'était peut-être plus au niveau de la demande sur le mois d'avril. Bon, je sais que c'est pas disclosé, mais sans donner de chiffres, savoir si la demande est toujours aussi soutenue quand vous regardez vos taux d'écoulement, est-ce qu'ils sont toujours aussi bons? Je pense notamment aussi à ce contexte qui semble un peu se durcir sur les taux d'intérêt, si vous pouviez nous dire un petit mot là-dessus. Merci.
Alors, quatre questions en une question, Emmanuel. Eric, je commence et puis tu te sens absolument libre de compléter. La première question sur le mix client et sur la baisse des ventes aux investisseurs individuels. Je vous dirais, Emmanuel, que finalement le mix client qu'on a au T1, donc 61% en détail et 39% en bloc, c'est finalement très comparable au mix client qu'on a enregistré sur l'ensemble de l'année 2021. On avait 55% en détail et 45% en bloc. Je pense qu'il ne faut pas y voir autre chose que des effets calendaires trimestriels. Et s'il fallait y voir quelque chose, ce serait d'ailleurs sans doute plus l'insuffisance de notre offre que le manque de demande des clients particuliers, puisque on a toujours une affluence toujours très soutenue sur notre site Internet. Voilà, on continue à enregistrer de leur part beaucoup d'intérêt. Je l'ai dit, les taux d'intérêt ont certes augmenté, mais ils restent bas, ils restent attractifs. Et puis les taux de désistement subis sont en ligne avec les niveaux historiques, sans recrudescence particulière. Et puis je l'ai dit aussi, on est dans un moment où l'argument de l'immobilier comme valeur refuge retrouve vraiment ses lettres de noblesse dans cette période d'incertitude. Donc je vous dirais que faut sans doute pas voir autre chose que des effets calendaires trimestriels et qu'au final, sur l'ensemble de l'année 2022, on devrait avoir un mix client assez en ligne avec celui qu'on a enregistré en 2021. Donc je le redis, 55 particuliers, 45 ventes en bloc. Même si on se garde la possibilité, la flexibilité d'orienter la commercialisation sur le canal de vente le plus réactif. Est-ce que tu aurais d'autres choses à vous dire, Eric, sur cette
question? Tout à fait. Et depuis début avril, enfin, il n'y a pas un moment d'inflexion particulière par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, ou même la guerre en Ukraine, enfin, n'a pas changé le comportement des consommateurs vis-à-vis de l'immobilier.
Alors ensuite, sur la deuxième question sur les coûts de construction, vous avez deux questions qui sont, un, la première sur les approvisionnements et deux sur les coûts. Moi, je pense que sur D'abord sur les approvisionnements, il faut quand même être clair que sur les chantiers là qu'on a en cours, on n'a vraiment pas de retard de chantier spécifiquement lié à des perturbations sur des chaînes d'approvisionnement. On n'a pas de grosses ruptures de matériaux observées. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être, en fait, en 2021, les coûts de construction ont connu une tendance fortement haussière, hein. On a une hausse de l'indice du coût de construction de 5% du fait des prix de l'énergie et des tensions sur les matières, et que cette hausse, on a pu l'incorporer dans nos prix de vente, puisque vous vous souviendrez, Emmanuel, que l'année dernière, les prix de vente au détail ont augmenté entre 2 à 3%. Alors, depuis le début de l'année, la guerre a généré une envolée de prix sur certains matériaux. Il y a vraiment quatre matériaux qui sont très touchés. C'est l'acier, l'aluminium, la brique et la tuile. Et quatre lots, je dirais, très touchés, qui sont la menuiserie extérieure, les couvertures, les serrureries et les gros œuvres. Mais, je le redis, on a pas de retard de chantier spécifiquement lié à des perturbations d'approvisionnement sur ces produits. Et ensuite, concernant les coûts, eh bien, on s'attendait, on peut dire, à une hausse de l'ordre de 4 à 5% sur l'année. Et ce qu'on observe à date, eh bien, c'est une augmentation de l'ordre de 4% depuis le début de l'année sur les coûts de construction.
Voilà, je
Mais c'est un
pense
peu plus fort que qu'attendu.
que... Tout à fait. Alors après, si on se remet dans une approche annuelle, on pense que ça pourrait continuer un petit peu à augmenter, mais que l'essentiel de la hausse est quand même derrière nous. Toujours est-il que dans nos budgets d'opération, on a pris un peu plus de prudence que ce qu'on avait imaginé en début d'année pour intégrer ce facteur de risque. C'est un facteur qui d'abord prolonge un peu plus le dénouement des opérations pour conclure les marchés de construction. Ça peut amener là aussi à refondre, à repenser certains projets dans le choix des matériaux, dans certains procédés constructifs, éventuellement dans la composition du projet. Donc tout ça, en effet, peut prendre du temps, mais globalement, on est assez confiant sur notre capacité à arriver à boucler l'équation budgétaire qui permet de maîtriser notre prix de revient et ça dans une gestion des prix dynamiques.
D'accord. Et si je peux me permettre une dernière question, peut-être c'était plus sur sur le business model. Quand il n'y a pas trop
Pardon?
d'inflation. Oui, vous m'entendez?
Oui, allez-y, sur le business model, ouais.
Oui, sur le business model par rapport au backlog. Quand il n'y avait pas trop d'inflation, bon, on avait un peu le sentiment que les marges étaient vraiment bien sécurisées sur le backlog, compte tenu du fait que voilà, vous externalisez la production. Là, j'ai l'impression que dans ce contexte où il y a quand même une forte inflation, même ce backlog va être soumis à des révisions de prix de vos fournisseurs. Est-ce que je me trompe?
C'est très marginal, ou c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le sujet du backlog qui correspond à des marges sécurisées sur des chantiers en cours de construction. On peut recevoir des réclamations des fournisseurs et des entreprises qui pourraient remettre en question le caractère ferme et non révisable des contrats. Après, je veux dire, on regarde bien entendu chaque cas particulier les uns après les autres et on voit la réponse qu'on y apporte. Mais globalement, on reste toujours dans des sujets de prix ferme et non révisables. Après, il y a des aléas budgétaires qui servent à gérer justement les aléas et les dépassements. Ça peut faire partie de ces éléments-là. Mais en termes de marge prévisionnelle, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la qualité de la marge sécurisée dans notre backlog qui correspond toujours aux aléas de chantier, de déroulement des opérations pendant l'ensemble de leurs opérations. Et c'est pour ça qu'on reste confiant dans la confirmation de notre guidance de résultat opérationnel pour l'année, qui va provenir en effet du résultat et du chiffre d'affaires qu'on va dégager à l'avancement sur nos opérations.
Ces discussions qu'on peut avoir avec nos fournisseurs, elles ont plus un impact sur l'allongement de la négociation des marchés travaux et donc sur les lancements des futurs projets que sur le niveau de marge en fait des opérations en cours.
Ok, merci pour ces explications. Bonne soirée.
Bonne soirée, Emmanuel, merci.
La prochaine question vient de la ligne de Marie Faure, de Société Générale. Madame, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur votre indication sur le chiffre d'affaires en base annuelle, donc grosso modo une stabilité à attendre du chiffre d'affaires sur l'exercice. J'ai cru comprendre que sur les services, vous attendiez à reproduire le plus 11%. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Et comment cette stabilité du chiffre d'affaires sur l'exercice peut s'articuler? Si vous pouviez rappeler un petit peu quels seront les éléments. Et la deuxième chose, c'est je reviens un petit peu sur les nouveaux paramètres de marché et la façon dont ça influe, alors non pas votre backlog, mais votre pipeline. Donc, vous confirmez que, en fait, vous retravaillez les opérations, mais vous n'annulez pas d'opérations. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça?
Je peux prendre la première question. Je crois qu'Eric n'a pas dit qu'on visait une stabilité du chiffre d'affaires, qu'on visait au moins le chiffre d'affaires de l'année dernière, mécaniquement compte tenu de la guidance, avec en effet des moving parts, enfin des tendances différentes en fonction des métiers, une baisse en effet de l'immobilier d'entreprise, et une fois de plus plutôt mécanique, donc par rapport aux 492 millions d'euros enregistrés l'année dernière. On aurait une baisse puisque l'indication ce serait plutôt de l'ordre de 400 millions d'euros sur 2022. Et puis sur les deux autres activités, est-ce que ça implique pour l'immobilier résidentiel et les services, c'est en effet une progression de ces activités avec des services qui devraient continuer à croître à deux chiffres?
Merci.
Mais ici, il y a plein des sujets embarqués des portefeuilles en gestion sur les activités de résidence étudiante et de coworking où l'effet portefeuille joue à plein sur des sujets de croissance de chiffre d'affaires. Et c'est ces éléments-là qui vont tirer l'activité sur 2022. Sur le sujet, en effet, des projets, on peut être amené à retravailler les projets si on n'est plus dans les clous de l'équation financière de base. Après, ce n'est pas forcément systématique et généralisé. Nos budgets sont toujours faits avec des prudences quand on signe les promesses de vente, des prudences dans le chiffre d'affaires estimé, des prudences dans le coût de construction. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement du projet et au moment où on obtient l'autorisation de construire et qu'on passe dans des phases concrètes de mise en commercialisation, de négociation des coûts de construction, c'est là où on voit en effet si nos anticipations ont été les bonnes. Et donc c'est là où souvent on voit des bonnes nouvelles sur le chiffre d'affaires. Ces derniers temps, vos questions le soulignent, on voit des fois des moins bonnes nouvelles sur les coûts de construction. C'est ça qui nous amène en effet à renégocier, retravailler le projet. Et jusqu'à présent, en effet, on arrive plutôt à conserver nos projets. C'est juste le temps de mise au point qui rallonge l'écoulement. Et tout ça nous remet dans des marchés où l'offre est contenue. Elle est contenue par les difficultés d'obtenir les permis de construire et elle est aussi contenue par les équations budgétaires. Ce qui est une autre manière de répondre aussi du sujet où par rapport à la solvabilité des clients qui peut être un petit peu contraint par la hausse des taux d'intérêt ou par les exigences apportées par les organes de régulation sur l'octroi des crédits, on est finalement dans un sujet où moins de produits écartent un petit peu de demande, et c'est forcément la demande la moins solvable qui en pâtit. Mais c'est là où on rebondit aussi sur la force du groupe de bénéficier d'une clientèle équilibrée, notamment sur les bailleurs sociaux. Et donc tout ça nous rend confiant sur notre capacité à réaliser une guidance d'au moins 14% en part de marché sur les réservations du logement neuf.
Merci bien.
Marilyn.
Vous souhaitez poser une question? Appuyez sur étoile 1. La prochaine question vient de la ligne de Christophe Chaput de Odo. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Juste une petite précision, en fait, quand vous répondez à Emmanuel que les coûts de construction ont progressé de 4% depuis le début de l'année, ça, vous le comparez par rapport à un mois de décembre 2021 ou un T4 2021, c'est ça?
Oui.
Alors, donc en fait, quand on compare ce chiffre-là par rapport au T1 2021, ça fait peut-être du plus 8%. Et donc, comme vos réservations, vous indiquez que sur les ventes au détail, en fait, les prix de vente ont progressé de 4%. On peut s'attendre sur cette base-là, en fait, à avoir un taux de profitabilité à peu près analogue, en fait, sur les réservations qui viennent d'être signées au T1. C'est à peu près comme ça qu'il faut le voir en grande masse.
Oui, tout à fait, hein, ce qui correspond en effet à cet effet, on va dire, du simple au double des coûts de construction qui ne représentent que 50% du prix de revient, qui fait que quand on voit qu'on reste orienté, sur, on le voit comme depuis le début de l'année, sur une progression de nos prix de vente au mètre carré supérieur à 2%, voire 3% sur certaines typologies de produits, ça donne la capacité à garder notre profitabilité malgré cette hausse des coûts de construction.
Et la provision pour aléas travaux, en fait, que vous mettez en œuvre, en fait, est-ce que vous avez la possibilité de l'augmenter un peu, voyez, pour vous donner une
Bon.
marge de sécurité supplémentaire? Enfin, la question est très naïve.
On a toutes les possibilités qu'on veut, puisque c'est une règle de gestion interne,
Exactement.
et donc elle est malheureusement consommée quand l'opération déroule mal. C'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver. Et en effet, dans les opérations qu'on étudie en ce moment, en disant cette opération va sortir dans 2 mois, dans 3 mois, on a clairement demandé à nos opérationnels d'augmenter un petit peu le coût anticipé de la construction. Alors, on ne le met pas forcément en aléa parce qu'on sent que c'est plutôt probable que pas probable, puisqu'en fait, finalement, quand on fait nos coûts de construction, c'est à la fois le coût estimé des marchés qu'on va signer, et donc ce n'est pas forcément uniquement la répétition du prix signé l'an dernier. On met un pourcentage d'inflation, enfin, ou de hausse, donc c'est plutôt sur ce poste-là qu'on va travailler. Et en plus, en effet, comme on est des gens prudents et qu'on sait qu'il y a beaucoup d'aléas dans le déroulement d'un chantier, on a en effet une provision générale d'aléas qui est toujours là. Qui est maintenu et le cas échéant permet de faire face aux aléas et donc de garantir au final un taux de marge conforme à nos attentes et dans la lignée historique de ce qu'on a su faire historiquement.
Donc on peut en effet l'augmenter, c'est pas une règle comptable, mais vraiment une règle de gestion et c'est nos secrets de fabrication, je dirais.
Mais on est plus aujourd'hui en effet dans une tendance haussière que diminution compte tenu des incertitudes que vous connaissez tous aujourd'hui sur nos marchés.
D'accord. Et puis la dernière précision, navré si vous y avez déjà répondu, mais si on regardait votre réserve foncière, est-ce qu'il y a des terrains que vous avez d'une certaine manière abandonnés parce que vous vous dites que ça ne correspondra pas au final à la marge qu'on veut dégager sur nos projets?
Elle est très limitée, notre réserve foncière, et Dieu merci, sur des sites avec de grosses opportunités. Donc pour le moment, on n'a pas de sujet particulier sur ces éléments-là. Après, on est là aussi très prudent dans notre capacité à se positionner sur des nouvelles réserves foncières ou des nouvelles opportunités pour justement avoir le maximum d'upside et le minimum de déception.
Merci beaucoup.
Voilà, si ça on en a pas, et puis quand les niveaux de marge ne sont pas là, les équipes retravaillent les projets pour avoir des équations budgétaires qui rentrent dans les niveaux de rentabilité, dans les niveaux de rentabilité attendus.
Il y a peu de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1.
Comprends qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci à tous pour votre intérêt pour Nexity, pour votre participation ce soir. S'il y a des questions que vous n'auriez pas abordées, auxquelles vous penseriez après coup, eh bien, l'équipe des relations investisseurs est à votre disposition pour y répondre. Merci encore et bonne soirée à tous.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.